7h15, avant-hier encore, un tir de drone a éliminé au Yémen des combattants d'Al-Qaïda. Ces avions pilotés à distance font désormais partie intégrante des forces armées. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Après avoir hésité pas mal de temps, la France a finalement décidé de rejoindre le club des pays utilisant des drones armés.
Oui, l'annonce a été faite cet été par la ministre des Armées, Florence Parly. Ce sera pour 2019. Aujourd'hui, la France dispose de 5 drones américains, des Reaper au Niger, en appui des soldats de Barkhane, utilisés jusque-là pour des missions de renseignement ou d'appui militaire. Le 6e est positionné sur la base aérienne de Cognac, en Charente, où je vous emmène ce matin. Le bourdonnement du Reaper traduisait la faucheuse. Le premier drone est entré en service fin 2013. 5 tonnes, 20 mètres d'envergure. Le Reaper peut voler pendant 24 heures, quasiment invisible à l'œil nu. Il est l'outil complémentaire devenu indispensable. Depuis 4 ans, un drone Reaper est en l'air chaque jour pendant une quinzaine d'heures. Sur la base de Cognac, le système est identique à celui installé en BSS, la bande sahélo-saharienne, explique le colonel Jérôme.
Pour piloter un Reaper, nous avons besoin évidemment d'un avion, ensuite du cockpit qui se situe au sol, c'est la particularité du drone, du cockpit renseignement qui est adjacent à ce cockpit et qui lui est relié par des câbles, des fibres optiques. Et enfin, nous avons besoin des moyens de communication qui vont nous permettre de piloter le drone depuis le sol à des milliers de kilomètres de distance.
Allez, tout fait, copie, take off in 1 minute.
T'es prêt ? 3, ready, 2, 1, plein gaz, cherche les freins.
Le Reaper, ça se pilote comme un avion, sauf qu'on n'est pas dedans.
Le commandant Paul, pilote de chasse et de drone.
Donc les difficultés, c'est qu'on le sent beaucoup moins. On a juste la caméra pour s'orienter et le piloter. Le grand avantage du drone également, c'est que on est quand même dans un cockpit qui est déporté, d'où on a moins de stress, donc on a pour moi une meilleure efficience.
À quelques mètres de là, le cockpit renseignement où se trouve le lieutenant Emmanuel.
Nous sommes dans une salle assez vaste, avec une dizaine d'écrans, voire plus quelquefois devant les yeux. Je suis secondée par mon interprète image, quelque sorte les yeux du cockpit. Vous avez véritablement une caméra qui en temps réel peut vous renseigner sur ce qu'on voit. Quant à moi, je suis quelque sorte comme une courroie de transmission. Nous rassemblons un maximum d'informations, nous croisons tout, nous ajoutons notre propre perception du terrain. Et grâce à tout ça, nous allons transformer les informations en renseignements et ensuite les diffuser soit aux forces soutenues, soit aux états-majors pour alimenter leur base de données au fur et à mesure.
Dans 2 ans, c'est elle qui demandera l'autorisation pour ouvrir le feu.
Si vous rajoutez l'armement, là il est certain que notre spectre de mission est quasiment complet. Donc là, nous serons bien entendu d'autant plus attentifs, sachant que nous nous inscrivons déjà dans le respect des conflits armés, les lois qui régissent bien entendu les tirs et qui sont extrêmement contrôlées.
L'objectif, c'est agir instantanément, protéger les troupes au sol. 15 équipages se relaient pour l'instant. 2 autres systèmes de drones à 85 millions d'euros chacun doivent arriver dans 2 ans. La France sera alors dotée de 12 Reaper armés.
Et malgré les lois et la technologie, Nathalie, y a-t-il de l'inquiétude ?
Oui, il y a notamment ce projet franco-britannique de drones de combat, le SCAF, prévu pour 2030. C'est un robot tueur en puissance pour Tony Fortin de l'Observatoire des armements. Ce drone sera programmé pour aller seul sur les terrains les plus hostiles, il faudra légiférer.
Pour l'heure, la position de la France à l'ONU, parce qu'il y a des discussions sur la réglementation de ces robots tueurs, c'est de dire l'homme doit toujours rester dans la boucle, mais attention, c'est une notion trop large. C'est-à-dire que la France défend l'idée qu'on va programmer le robot à exécuter librement sa mission sur le terrain. Donc l'intervention humaine se limitera à la programmation en amont du robot. Et c'est pour ça que nous, ONG, on demande clairement, est-ce qu'il y a des garde-fous très très clairs, notamment interdiction des recherches qui visent à conférer la décision finale létale pour le robot. Et pour le moment, l'état actuel des discussions internationales, on en est loin.
Tony Fortin suggère que les parlementaires en débattent lors de la prochaine loi de programmation militaire.
Merci Nathalie Hernandez.